Lights, camera.
Bonjour à tous et bienvenue à On jase de film. Mon nom est Guy Saint-Cyr et On jase de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un invité ou une invitée de cinéma, soit trois de ses films piliers, ses films coup de cœur, un film détesté et un petit plaisir coupable. Aujourd'hui, mon invité est un jeune réalisateur en émergence, c'est Miguel Deplante. Salut Miguel!
Allô!
Comment vas-tu, Miguel?
Ça va tellement bien. Salut, Guy. Salut tout le monde.
Ah, formidable. Yes! Oh, on casse la baraque.
Ah, mais hein.
Miguel, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc ça, tu es un jeune réalisateur. Tu as fait l'UQAM en cinéma. Tu as réalisé en grande partie le Scram 2019 des Pile-Poil, qui était la revue de l'année. Tu es actif dans Kino. Tu as des courts-métrages qui sont sur YouTube. Qu'est-ce qu'on peut voir de toi sur YouTube?
Est-ce que tu as dit le Scram des Pile-Poil?
Des Pile-Poils?
Ah, c'est ça, oui, ok, c'est ça, j'avais compris les Pile-Poils. Non, c'est les Pile-Poils. qu'est-ce qu'on peut voir que j'ai fait? Il y a le film Cliché, qui est un film que j'ai fait il y a 2 ans, mm-hmm. en 2017, mon premier court-métrage qui est rendu disponible sur YouTube. Tout ce que j'ai fait par après, j'ai fait 2 autres courts-métrages, mais sont encore dans le fabuleux monde de la post-production et des festivals, donc ils ne sont pas encore disponibles à l'écoute. Pour monsieur, madame, tout le monde. Mais sinon, si vous tapez cliché Miguel Plante sur YouTube, vous allez tomber dessus là, facilement.
Super. Ouais. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec ton premier film qui est A Woman Under the Influence de John Cassavetes de 1974. Ça met en vedette Gina Rowlands. Peux-tu nous résumer un peu ce film-là?
Grosso modo, c'est quand même assez simple. T'sais, c'est l'histoire d'une famille, Gina Rowlands qui fait la mère de la famille, la femme de Peter Falk, là, celui qui joue Columbo. Oui. Je dirais pas une hystérie. Elle n'est pas hystérique, là, mais elle a quand même les émotions à fleur de peau, puis elle est très, très, très proche de ses émotions, ce qui fait que son mari va lentement la diriger vers l'asile parce que il considère que c'est ce qu'elle a besoin. Donc, on va vivre elle avant et après son entrée à l'asile. Donc, quand elle va revenir de ses séances ou de comment on appelle ça, mais quand elle va revenir chez elle, comment elle aura changé. Donc, ça, c'est vraiment une histoire qui est plutôt simple. T'sais, à la base, on reste dans le contexte de la maison, un petit peu son travail, mais c'est pas super éclaté là, dans la forme. Ce qui est vraiment intéressant de ce film-là, c'est le travail qui a été fait avec les acteurs puis le jeu des comédiens dans le film.
OK.
Dans le fond, Gina Rowlands, qui est le personnage principal, c'est aussi la femme de Cassavetes. Donc, elle connaît super gros, elle connaît son travail, puis elle connaît sa manière de procéder. Ils ont une grande intimité, donc tu sens vraiment qu'ils peuvent se permettre d'aller un petit peu plus loin. Là, souvent, ce que Cassavetes faisait avec ses acteurs, c'est qu'il les faisait répéter avec leur personnage longtemps avant de tourner, mais sans qu'ils sachent réellement ce qui allait se passer dans le film. Seulement, OK, t'es une femme dans la trentaine, tu vis telle affaire. Puis là, d'un coup, il débarquait une fois avec un scénario, une caméra, puis sans dire qu'il improvisait, mais il allait vraiment avec l'émotion, avec le moment, puis ça se sent dans le film. T'sais, souvent, il va y avoir des moments où Gina Rowlands fait des longs monologues, puis d'un coup, elle part à gauche, la caméra est pognée pour la suivre, on sait pas trop où est-ce qu'on y va.
Wow!
Bon, c'est... Il y a quelque chose de super nerveux dans la réalisation, super dans le moment, puis c'est vraiment unique là, comme film pour ça.
Mm-hmm. Ouais. C'est A Woman Under the Influence. Est-ce que tu dirais que c'est aussi Young Director Under the Influence quand tu regardes ça? Est-ce que ça t'influence, ce film-là? Pour faire le pire jeu de mots de l'histoire.
J'ai entendu des pires, mais... c'est une influence. En fait, je te dirais que oui, pour le travail d'acteur, mais... Dans ce que j'ai fait jusqu'à date, j'ai été dans une autre direction là, niveau jeu d'acteur. Donc, je ne pourrais pas dire que c'est une influence directe. Par contre, pour la liberté, pour vraiment le genre de folie que ça peut permettre, des fois, c'est un genre de film que tu écoutes puis on dirait que tu comprends qu'il existe ce genre de film-là aussi. Mm-hmm. Ça peut être vraiment inspirant après, mais je te dirais que c'est plus un objectif à atteindre qu'une influence directe pour le moment. Là.
OK. Puis dans quelles conditions tu as vu ce film-là? Puis qu'est-ce qui est venu te chercher au moment du visionnement?
Je commençais l'université. Mm-hmm. Puis, tu sais, j'étais vraiment... Tu sais, tu commences l'uni, ben là, oui, là, tu as découvert Orange Mécanique, puis oui, tu as découvert tous les films que tous les cégepiens ont découvert puis qui sont donc bons, là. Mm-hmm. Fait que là, je voulais découvrir d'autres réalisateurs puis d'autres trucs que j'avais aucune idée qui existaient, puis j'ai tombé sur le coffret Criterion de Cassavetes. Fait que là, je me suis mis à me claquer tout ce qu'il a fait.
Ah ouais.
Puis, tu sais, lui, ben justement, c'est un acteur hollywoodien, là, puis, tu sais, c'est lui qui joue dans Rosemary's Baby, mm-hmm. de Polanski, tu sais, puis il est super, ben genre, dans un contexte hollywoodien plus classique, tandis que dans ses films à lui, quand il fait son œuvre qui va signer de son nom, ben là, il va vraiment dans un cinéma plus direct, un cinéma avec un jeu complètement différent, là. Mm-hmm. Fait que... Je m'éloigne un peu de ta question, mais c'est un peu ça qui m'a fait découvrir le réal. C'est le fait qu'il était un peu bad boy, là, niveau réalisation, niveau direction.
Oui. C'est souvent, ouais. Ça, c'était une belle gueule de l'époque, là, des années 60, ouais. 50, 60, ouais. 70. C'était comme un genre de Tom Cruise, si on veut. Si
ouais, carrément.
Maintenant, Tom Cruise sortait une espèce de film un peu weird de gens qui parlent pendant des heures. Là.
C'est ça, exact. Puis là, il y avait en plus le standing de dire ben, « je suis Cassavetes », fait que les gens qui connaissaient peut-être moins le cinéma ou qui étaient moins dans l'expérimentation, ben, ils allaient quand même voir le film parce que ben, t'sais, c'est Cassavetes. Fait que j'imagine, là, je dis ça puis je parle au travers de mon chapeau, mais j'imagine que ça a amené le public à quelque chose de différent aussi, t'sais, qu'ils ne s'attendaient pas. Fait que ça a dû être vraiment influent de son époque aussi. Là.
Ouais, sûrement.
74, t'sais, c'est quand même... assez vieux là, pour un film avec autant de liberté. Vous irez voir des scènes sur YouTube. Si vous voulez, je pense que le film est disponible au complet sur YouTube. Il y a vraiment des moments mythiques là-dedans. Là.
Cool. Ouais. Si on passe à ton prochain film, qui, là encore, c'est l'histoire d'un homme qui, là, cette fois-ci, est pris dans une espèce de situation impossible. C'est un film danois que je vous invite vraiment à voir. Moi, c'est...
Ouais.
Ce film-là m'a mis... Sur le cul, carrément, c'est The Hunt, Jakten, ouais. Dans son titre danois.
On dit Jakten?
Jakten ou Jakten, je sais pas. J'ai toujours dit Jakten, mais peut-être que tu prononces les J avec des J.
Jakten.
Film de 2012 de Thomas Vinterberg, qui a aussi réalisé Festen, le soucoupe de famille.
Ouais.
Ça met en vedette une grosse, grosse, grosse vedette aujourd'hui. Mads Mikkelsen, qu'on peut voir dans la télésérie d'Hannibal, qu'on a pu voir dans un paquet.
Oh my god, Hannibal, tu viens de me rappeler ça.
Mais je pense qu'il a même été dans un des Star Wars.
Dans Rogue One. Il fait des Marvel aussi, je pense, à Star. Tu sais, il est rendu partout, là, mais...
Oui, oui, c'est rendu une grosse vedette aux États-Unis. Oh, ouais.
C'est excellent. C'est un acteur incroyable. Puis dans ce film-là, ben, ça prenait un acteur incroyable aussi.
Tout à fait. Puis l'histoire, c'est d'une dureté. C'est une petite fille d'à peu près 4-5 ans qui accuse un homme de pédophilie. Et c'est pas vrai. La jeune femme a menti. Mais exact. Comment tu fais pour te sortir d'une situation quand c'est un enfant qui t'accuse, toi?
Quand c'est un enfant qui t'accuse, c'est que toutes les autres personnes, ils vont accorder le crédit à qui? C'est sûr, à l'enfant. Là,
ben, forcément. Puis, je veux dire, n'importe qui accorderait la ben raison à l'enfant parce qu'elle dit d'une façon tellement innocente, mais c'est pas...
Elle dit jamais, il m'a touché ou whatever. Mais en tout cas, de ce que je me rappelle du film, elle fait juste des insinuations, puis c'est juste... Oui. Puis pour elle, c'est que ça vient juste du fait qu'elle est en amour avec le monsieur, parce que c'est un enfant qui voit cet homme-là comme son père.
Oui, parce que ses parents sont en processus de divorce, parce que son frère, qui est plus vieux, lui montre des images pornographiques.
C'est ça. Fait que tout ce qui... Puis c'est ce qui est rough avec le film, puis en général avec les films qui marchent au cinéma, c'est le contexte qui... Le contexte tellement réaliste puis tellement probable de la chose... Même si c'est méga romancé, puis au final, tu sais, là, on n'ira pas spoiler rien, mais tu sais, ça se passerait peut-être pas comme ça, mais mm-hmm. juste, c'est que l'injustice est tellement cathartique. T'sais, tu vois le film, puis tu y crois, puis tu veux croire la petite fille aussi, parce que même si tu sais qu'elle a tort, ben tu sais quand même que c'est une petite fille, puis ses raisons sont super louables, puis genre, elle a rien fait de mal, tu sais. Fait que tu te sens pas bien tout le long du film parce que le bonhomme, là, il vit l'enfer. Puis la petite fille, tu peux pas rien lui reprocher, mais mon Dieu, qu'elle a toute défaite.
Mm-hmm.
C'est... Non, non, il est vraiment intéressant ce film-là, puis il passe super vite. Il m'a fait découvrir aussi Mads Mikkelsen, fait que c'est sûr que ça m'a. C'est sûr que ça a un petit côté plus, là, parce que cet acteur-là est incroyable, mais non, c'est un des films. Tu sais, il y a plusieurs films qui me marquent, là, puis comme celui-là, je le réécoute très souvent, là. Je sais pas, il vient me chercher. Le petit côté injustice, là, c'est le fun d'être drivé par ça dans un film. On dirait comme tu t'attaches tellement plus au personnage quand ils vivent quelque chose que tu sens que tu pourrais vivre aussi, mais qui fait pas de maudit bon sens.
C'est un
T'sais.
film de 2012, donc c'est
Ouais.
sorti avant tout ce qui était le mouvement MeToo aussi. Puis c'est sûr que le mouvement
Ah ouais.
MeToo a amené la vague de croire les victimes. Puis il faut croire les victimes d'abord. Il faut croire les survivants, les survivantes d'agressions
Complètement.
sexuelles.
Complètement. C'est juste que là, tu sais, dans ce contexte-là, on a tellement tout, c'est comme si tu voyais. Parce que là, c'est une non-agression. Là. Il s'est absolument rien passé. Mais tu sais, ça, c'est de voir ce mouvement-là que oui, tu sais, oui, on croit à la victime. Puis... Mais dans ce cas-ci, on n'aurait pas dû. Mais tu sais,
Oui, mais en
après
même temps, tu peux pas faire autrement. C'est
ben
ça
non,
l'affaire.
clairement. Clairement. Voyons donc, une petite fille de 5 ans vient me voir. Puis. Me fait comme comprendre que monsieur la touche, tu
Ben oui, c'est sûr que tu vas la croire. Non, non,
sais.
c'est brillamment joué. Même la petite fille de 5 ans, bon, peut-être plus vieille que ça, puis elle a l'air d'avoir
Ouais, j'avais entendu dire
50.
qu'elle avait comme 45, là. Ouais.
C'est sûr ils ont du bon maquillage, puis.
Oh non, non, ben, mais en fait,
Payé
c'est
des
que. Ouais,
rajeunissements de
c'est ça.
Marvel, puis
Ben, c'est. C'est le cinéma là-bas, là, c'est que tu sais, ça. La télé fait mincir de 10 livres puis rajeunir de 40 ans souvent.
c'est ça, puis c'est ça aussi le cinéma de Thomas Vinterberg. J'ai mentionné Festen. Festen, c'est encore là, c'est un grand souper de famille, c'est tous des bourgeois qui sont réunis pour le 60e anniversaire d'un homme et. Le frère décide de se lever au moment de faire un speech pour honorer son père en disant Mon père était un grand homme, tu te rappelles quand tu nous amenais dans ton bureau avec ma sœur qui malheureusement n'est plus des nôtres, sa sœur s'est enlevée la vie. Tu
OK. J'ai
te
pas
rappelles quand
vu
tu nous amenais dans
celle-là.
ton. Ouais, c'est ça. Puis
OK.
c'est ça. Puis dans son speech, il dit Tu te rappelles, tu nous amenais dans ton bureau et tu nous violais.
Oh, tabarnak.
Ah
OK.
ouais, puis là, ça part en couille, mon gars, là, c'est.
OK,
Mais.
fait que c'est vraiment dans sa thématique
Ah ouais, et puis de
de
jouer avec le
malaise. OK.
malaise, de jouer avec ce sentiment-là d'injustice. Puis évidemment, lui, il dit ça, puis il accuse son père d'avoir un peu été la cause du suicide de sa sœur. Puis encore là, c'est
Bien
les gens
sûr.
qui le croient pas, puis c'est les gens qui remettent en question son discours. Fait que c'est son style à Vinterberg d'aller jouer
Ah ben
là-dedans,
tu
mais.
vois, j'avais entendu parler de Festen, mais je l'avais jamais vu, puis longtemps tu me donnes envie, là.
Oh oui,
Ouais.
c'est rentre dedans. Mais autant que la chasse de Hunt. Ça aussi, quand tu l'as vu, ben, j'ai l'impression que c'est un film qui nous habite longtemps.
Ben, c'est ça, tu sais, c'est moins quand tu me parlais au départ, ben, envoie-moi trois films, tu sais, qui ont un peu marqué ton parcours de cinéaste, tout ça. Tu sais, je ne saurais pas te dire comment il a marqué mon parcours de cinéaste, parce que, tu sais, si vous allez voir mes films, c'est de la comédie de genre, là, tu sais, on n'est vraiment pas dans le même, on n'est vraiment pas dans le même créneau, là, que The Hunt, mais je sais pas, tu sais, ça reste un film marquant pour l'amour qu'il y a pour ses personnages, puis la complexité d'une situation qui peut être simple à la base, mais après ça, c'est que tu l'extrapoles, puis tu en fais un film, mais en partant d'une prémisse tellement, tellement précise, puis tellement, je sais pas, crève-cœur, tu sais. Je sais pas, il y a quelque chose dans le scénario, il y a quelque chose dans le jeu, dans le. Puis c'est un film danois, puis je connais pas tant le Danemark, mais ça me rappelle beaucoup le Québec, là, tu sais, tu vois le film, puis ça pourrait être un film québécois avec un bon drame, tu sais, je perds le mot, mais tu sais, il n'y a pas de lieu à ce film-là, tu sais, c'est pas...
Non, 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 carrément pas. Tu sais, c'est un petit village sans nom, avec une population comme on retrouve partout. C'est
Mais
des
j'attends
sociétés
juste
qui
le
sont
remake avec
tissées.
Claude Legault, là.
Ah, je m'en allais dire Réal Bossé, moi.
Ah, shit!
Trouve que
Ben,
Réal
regarde.
Bossé, c'est un peu notre Mads Mikkelsen dans
Ouais,
le rôle d'acteur.
j'avoue qu'elle a la gueule un peu, là.
Un
Réal
petit peu,
Bossé,
ouais.
là, Émilie Bière est rendue trop vieille.
On trouvera, on trouvera.
Ouais, mais là, faites les nôtres qui ressemblent un peu, fait que là, on va pas.
Ouais, c'est sûr. Si on passe à ton troisième film, maintenant, je vois qu'il y a un lien entre tes trois films. C'est toujours des films de gens qui sont pris dans une espèce de casserole sous pression, là, qui
ouais, je suis un gars bien positif.
Explosé. Comment?
Un gars bien positif.
Ben, je vois ça, je vois ça. Ouais. mais c'est « Quiconque meurt, meurt à douleur
ouais. »
de Robert Morin, notre grand Robert Morin.
Ouais.
Film de 1998. C'est quoi? « Quiconque meurt, meurt à douleur », un titre qui est aussi long que le fun à dire.
Ouais, ben c'est aussi un film qui a un titre qui t'intrigue. Tu vois le titre, ouais. Puis c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai découvert. En fait, c'est le premier Robert Morin que j'ai écouté. Puis j'aurais pu vraiment te nommer comme 75% des films de Robert Morin dans ton podcast. Mm-hmm. Pour vrai, c'est le réal qui me fait le plus triper, tu sais, au monde. Là. Tu sais, ouais. J'adore ce qu'il fait, puis je sais que je ne suis pas le seul. Là. Il y a plusieurs cinéastes qui ont été influencés par lui, puis il y a de quoi. Tu sais. Pour ceux qui le connaissent un petit peu moins, il donne beaucoup dans le fond de footage, dans le cinéma un peu vérité, un peu faux documentaire. Mm-hmm. Puis, Quiconque meurt, meurt à douleur, c'en est un. C'est un, c'est sur, dans le fond, ça se passe dans une piquerie à Montréal. Je pourrais pas te dire exactement où. Je pense à Verdun, là, mais je suis pas.
Je suis pas sûr. Moi, je pensais que c'était Hochelaga-Maisonneuve, mais écoute, c'est des quartiers qui se ressemblent beaucoup. Là.
Ouais, ça se peut. Mais ça se peut. C'est juste un quartier qui est pas super riche là, à la base. C'est ça qu'il faut qu'on sache. C'est dans une piquerie, puis c'est une descente de policiers dans cette piquerie-là. Par contre, les junkies dans la piquerie ont décidé d'enfermer les policiers, de les embarrer là. Donc, c'est les policiers qui sont embarrés avec les junkies dans leur appartement. Et t'as un de ces policiers-là qui est en fait un journaliste qui était là avec sa caméra pour tout filmer, pour filmer l'opération policière. Donc, le film, c'est juste le fan footage de ce qui a été filmé à l'intérieur de l'appart pendant les 2-3 jours qui restent là. Fait que tu vas vraiment avoir un regard intérieur sur les junkies, sur ce qu'ils vivent en réalité dans leur truc, parce qu'ils sont pas tout le temps en train de se shooter. T'sais. Ils ont aussi des relations, ils ont aussi des craintes, ils ont des raisons d'être là. Fait que ça va vraiment donner une parole à ces gens-là. Puis, bien entendu, plus ça va aller, plus ils vont manquer de dope. À un moment donné, ils sont pognés dans la pièce, puis c'est ça. Fait que, j'ai été déconcentré, là, j'ai un
ben
peu
oui,
là,
il y a comme
qui est rentré en gueulant. Là. mais c'est ça, grosso modo, fait que, on va vraiment avoir le regard de cet intrus-là dans l'environnement des junkies. Hmm. Puis, c'est ça, puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que Robert Morin va toujours utiliser des acteurs, des comédiens qui ont un peu vécu ça, tu sais. Dans le cas de Quiconque meurt, meurt à douleur, ben c'est des acteurs pour la plupart, là, pas tous, mais qui sont des junkies, qui ont été par le passé junkies, puis tout ça, puis qui ont vécu ces choses-là. Fait que tu le vois quand il parle à la caméra, puis quand il joue dans le film, même si c'est un scénario qui est écrit, même si c'est une fiction, tu vois quand même qu'il y a du vécu, qu'il y a de la vérité, puis qu'il cherche à passer un message au travers du film. Puis ça, ça en fait quelque chose de super puissant, de super fort, puis d'unique. Puis qui te marque vraiment aussi quand t'es au secondaire, pas au secondaire, quand t'es au cégep, puis tu découvres ça, tu sais.
Mm-hmm. C'est un genre que t'aimerais explorer, le faux documentaire, ce style-là?
Complètement. Ouais. Complètement. Moi, j'ai l'impression que j'irais peut-être pas dans la même optique que Morin.
Peut-être plus en comédie ou en...
Ben, c'est ça. T'sais, Robert Morin, tu sens qu'il veut beaucoup te dénoncer dans son œuvre. Ouais. Il est très, très engagé. Je me considère comme engagé aussi. Peut-être que ça va venir un petit peu avec la maturité plus tard dans mon parcours, mais pour l'instant, j'ai pas envie de crier sur quelque chose ou de dénoncer quelque chose dans un film. J'ai plus envie de faire rire, puis j'ai plus envie de divertir. Mais par le faux docu, ça serait clairement une avenue qui m'intéresse. Je suis en train d'avoir des idées pour un prochain truc qui ressemble un peu à du faux docu.
Ah, cool!
Mais moins trash, tu sais, ça serait moins trash que Robert Morin, même si j'aimerais ça, mais on dirait que je me sentirais imposteur d'arriver et de parler d'un sujet que je connais pas comme ça, tu sais.
Mm-hmm.
C'est vraiment quelque chose. Ouais.
C'est quoi les autres films de Robert Morin qui ont marqué ton parcours?
Clairement, Yes Sir, Madame.
Ouais.
Ça a été solide. Puis sinon, je sais qu'on a déjà parlé, maintenant, de comment il s'appelle, Petit Papa Noël.
Oui, mon Dieu, ça c'est next level trash. Là. Si, si vous pensez que Quiconque meurt meurt à douleur, c'est...
Ouais.
Quiconque meurt à douleur, c'est une promenade en forêt un dimanche après-midi ensoleillé d'été, à côté de Petit Papa au Noël, là.
Petit Papa au Noël, là, garde, pour faire ça, pour faire une histoire courte, c'est un monsieur joué par Robert Morin lui-même qui va voir son père à l'hôpital, qui est joué par son père.
Ouais.
Fait que, à date, on est comme dans le faux documentaire pas mal vérité, tu sais. Puis, il va le voir la nuit de Noël à l'hôpital, puis il dit, après cette nuit-là, je vais te débrancher. Ouais. On passe une dernière nuit ensemble, j'ai ma caméra, je te dis joyeux Noël, je t'aime, je vais filmer comment tu es traité dans les CHSLD. Je me rappelle plus exactement où il est, mais la prémisse, c'est ça. C'est une nuit, puis le lendemain matin, je te débranche.
Ouais.
C'est fini. C'est rough, là. C'est rough. Puis tu vois le film, puis tu sais que c'est son père. Puis non, il ne l'a pas débranché après. Là. C'est pas ça le point. Là. Mais ça reste que... Tu te dis le réalisateur qui a fait ça, Robert Morin, qui est là, puis qui fait ce film-là. Puis pour son père aussi, ça a dû être une expérience folle.
Mm-hmm.
D'aller filmer avec ton père une histoire que toi-même, tu tues ton père. Puis là, avec ça, ben, y a toute la dénonciation de comment il est traité là-bas, puis comment tout ça. Mais c'est incroyable d'avoir cette idée-là, cette bulle-là, puis de dire « oui, je le fais », puis... T'sais, c'est comme ça que tu choques. Là, le cinéma peut être vraiment... le cinéma peut être une arme.
Mm-hmm.
Je pense que Robert Morin, il en a fait la démonstration.
Oui, c'est ça. Puis Petit Papa Noël, en quelque part, il y a des questions qui sont encore d'actualité sur justement comment on traite les personnes âgées, dans quelles conditions on laisse nos personnes âgées. C'est aussi mourir dans la dignité, mais c'est finir sa vie dans la dignité ou pas. C'est vraiment un film
plus grand, là. Il y a une scène dans la douche, là, je sais pas si tu te rappelles, mais c'est juste que t'as juste une infirmière qui amène le père dans la douche puis qui le lave. C'est rien que ça. Puis t'as Morin qui est là, puis genre, il y a comme un malaise parce qu'il y a un gars qui a une caméra, mais c'est tellement simple, mais ça fait mal. Tu sais, un peu comme The Hunt, à quelque part, il y a un côté de tu sais que ça peut être la vraie vie, puis tu sais que ça peut être injuste. Puis l'injustice, c'est quelque chose qui revient souvent.
Mm-hmm. Tu as découvert comment, Robert Morin, c'est quand la première fois que tu as eu un contact avec ce cinéaste?
Ben en fait, c'est sûr que c'est pendant le cégep. Je l'avais découvert, à tout le monde en parle.
OK.
Pendant qu'il parlait de, justement, Petit Papa Noël. Puis on avait vu des extraits. Il montrait un extrait de tout ça. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça?
Ouais.
Qu'est-ce que c'est ça, cette bibitte-là? Puis tu sais, mais c'est Quiconque meurt que j'ai écouté en premier parce que je l'avais trouvé, genre, sur Vimeo gratuitement ou quoi de même. Mais après ça, là, j'étais allé à la Bibliothèque nationale, puis j'ai tout emprunté ce qu'il a fait, mais tout. Là, tu sais, il y a comme 15 DVD de court-métrage, puis j'ai tout écouté. Là.
Ouais. Dans mon cas, en tout cas, c'est un vidéaste, c'est un cinéaste, un vidéaste aussi, mais c'est un cinéaste qui change un peu ta perception sur bien des choses, juste au niveau de la compréhension de comment l'humain fonctionne.
Là. Ouais. Comment l'humain fonctionne, mais oui, effectivement. Dans le nègre, genre.
Ouais, dans le nègre, mais aussi dans Requiem pour un beau sans cœur. Tu sais, c'est un gars qui va dans la perception, comment les humains perçoivent des situations, parce qu'il est quand même pas mal tout le temps en caméra, first person ou
point
of view, là, si on veut.
Ouais. Et ça, c'est Guillaume Dorois à son meilleur. Là.
Comment?
Guillaume Dorois à son meilleur là-dedans.
C'est son meilleur rôle à vie, puis il a longtemps été méprisé comme comédien parce qu'il faisait kilomètre-heure des comédies. C'est un de nos plus grands comédiens, et heureusement, il retrouve un peu des rôles à sa taille avec dans District 31, il était pas mal encensé pour ça.
Mais quand même, non, mais il est bon. Puis ça qui est le fun de Robert Morin, c'est qu'il y a toujours un petit aspect de la technicalité du film, comment le film a été fait. Dans Quiconque meurt meurt à douleur, ben, c'est des ex-junkies qui jouent. Il y a toujours un souci d'aller plus loin, même s'il ne le vantera pas dans le film. En passant, ça, c'est avec des junkies. Mais il y a toujours. Tu sens qu'il ne fait pas ça juste pour le plaisir de faire un film et avoir du cash. Il y a vraiment quelque chose à dire.
Ouais,
il va aller jusqu'au bout de sa démarche. Puis ça, c'est quelque chose qui me fascine de lui. Là.
Oui, ça, puis c'est un de nos rares cinéastes au Québec qui a osé aller vers le genre, vers du cinéma de genre. Le problème d'infiltration, c'est un film anxiogène, mais c'est un film d'horreur, c'est un film de monstre.
Maison.
Wendigo, ben, c'est sa version d'Apocalypse Now. C'est
Ouais,
vraiment. Il est
c'est
parti du
genre.
même roman
Mais
de Conrad, ouais.
dans le problème d'infiltration, il dit qu'il s'est beaucoup inspiré de Murnau
Oui.
pour le faire. Fait que, t'sais, déjà, tu vois qu'il y a une grosse influence du genre. Puis il veut pas lui-même, on l'avait déjà eu en entrevue à l'école. Puis t'sais, il disait, je veux pas faire du Morin. T'sais, lui-même, il veut
Oui.
pas faire Tipré, je veux faire du. Hey, OK, je vais faire un film Robert Morin aujourd'hui. T'sais. Fait que je vais aller shaker ma caméra devant des personnes qui vivent des injustices. T'sais, c'est pas ça. Mais ça reste qu'il t'sais, il fait un film, mais ça va être un Morin parce qu'il a sa touche, puis c'est un auteur, là, t'sais.
Un autre film, moi, qui m'avait bien gros marqué, c'est un peu champ gauche dans sa filmographie, tout en restant très proche de lui, mais c'est Papa est à la chasse au Lagopède.
Ouais.
C'est un peu l'inverse de Quiconque meurt meurt à douleur. Dans Quiconque meurt, tu vois des junkies, des gens qui ont rien puis qui sont obligés de se droguer. Puis dans l'autre, c'est la cavale d'un gars, style Vincent Lacroix, qui s'est sauvé avec des millions de
Ouais.
dollars d'investisseurs,
Les paradis fiscaux, là.
avec les paradis fiscaux. Puis à un moment donné, c'est que tu finis par comprendre son point. C'est pas juste pour le fun qu'il s'est sauvé. Il a fait, ouais, mais tu sais. Le monde dans lequel on vit est dégueulasse, puis
Ouais.
je remets ça dans votre face. Ouais,
Ouais.
de l'ensemble de ce qu'on est dans ce film-là. My God, que j'étais comme.
Ouais.
Ça m'a déprimé pendant des jours.
Ah non, je pourrais te parler de tous les films de Morin. Ils ont tous hein, quelque chose, un petit côté unique. Il y en a quelques-uns plus récents que j'ai pas vu, que j'ai pas encore vu les trois histoires d'Indiens.
Ouais,
J'ai
celui-là
hâte
non
de le
plus, j'ai
voir.
pas vu.
Mais j'ai hâte à son prochain, là, comment ça s'appelle? Un acteur et la mort.
Ok, c'est quoi ça? J'ai pas entendu parler.
Aucune idée de ce que c'est pour l'instant. Je me suis pas si renseigné que ça encore, mais tu sais, c'est le nom de son prochain film. Puis tu sais, il veut pas, Monsieur Morin. Ben, il commence à être un petit peu plus âgé. Tu sais, il y a quelque chose d'une réflexion par rapport à la mort. Tu sais, je ne sais pas s'il peut. Hey, moi, mon fantasme, c'est qu'il fasse un Bergman.
Ah
Robert Morin qui fasse sa version de Seven Seals, là, on est parti.
ouais. Ça va finir avec l'acteur qui va jouer aux échecs
Ah,
avec la
gamme.
mort.
N'importe quoi, là. Ben, Robert Morin, il ferait sûrement une game de risque ou du no. Tu sais, il serait plus.
Oh, terre à terre, là. Ouais, ce serait une game de trou de cul avec la mort.
Oh, c'est ça. Ah oui.
Écoute, sur ça, on va faire une petite pause. On va laisser le temps à nos auditeurs d'aller justement découvrir un peu le cinéma de Robert Morin.
Mais oui.
On se retrouve de l'autre côté.
Allez, salut bien, là.
J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook On jase de films, Instagram @On jase de films. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de films. On est de retour à On jase de films avec mon
Wouhou!
invité Miguel Deplante. Tu viens de me désarçonner, mon
Ah,
tour.
genre, j'ai plein de tours sur mon sac.
Avec qui on a jasé dans la première partie de Woman Under the Influence de John Cassavetes, on a jasé de The Hunt de Thomas Vinterberg et Quiconque meurt meurt à douleur longuement de Robert Morin.
Oh,
Maintenant, dans le film que toi tu détestes qui
oui.
ou que t'aimes moins, là, je ne sais pas comment tu peux le dire,
Ah,
mais
je l'haïs,
bon,
là.
ben, hey, ils sont là en cœur.
J'ai ouvert la page d'IMDb tantôt pour avoir les infos, tu sais, proche. Des fois qu'on a, puis tu sais, je vois juste la pochette, puis pour vrai, là.
Ça te cringe.
Oh, mon Dieu,
Ça a longtemps été le plus grand succès du cinéma
ouais,
au niveau
c'est tout le
commercial,
monde.
là.
Ouais, puis tu sais,
2009,
je ne connais même
Avatar.
pas si c'est un mauvais film. En tout cas, vas-y, dis. Je ne peux plus, moi.
Avatar de James Cameron, mettant en
Ah.
vedette Sigourney Weaver, Zoe Saldana
Mais oui.
et Sam Worthington, qu'on a jamais revu nulle part après.
Non.
Dans aucun rôle marquant. Qu'est-ce que t'aimes pas d'Avatar?
Avatar.
Voilà, fin du podcast. Merci,
bonsoir. Ben, c'est ça. Fait que mon film bonbon, moi, c'est... Écoute, ben, en fait, puis le pire de tout ça, c'est que, tu sais, je déteste Avatar sans raison logique et tangible. Tu sais, je peux pas arriver avec des arguments super critiques, mais c'est que j'ai vu le film bon, en 2009 quand c'est sorti. Mm-hmm. J'avais genre 15 ans, 14 ans. Tu sais, je vais voir ça au cinéma, puis oui, techniquement... il m'impressionne. Tu sais, c'est un bon film techniquement. Tu sens que l'argent a été investi. Puis que, tu sais, tout ça, là, je le reconnais. Là. Mais l'univers m'a zéro intéressé. Je trouve que les personnages, ils sont tellement animés par une idée. Puis qu'ils sont, ils n'ont pas de profondeur. L'histoire est tellement blend. Puis vue 10 000 fois. En fait, je pense que si le film n'avait pas été aussi populaire, ça ne m'aurait pas fait chier autant.
Ouais.
Mais le fait que ça a été si longtemps le numéro un box-office, puis que tu sais, après ça, tout cet univers-là, ben là, ils veulent l'exploiter pour 3 autres films, puis on dirait que ça prend une espèce de grosse tangente que... On dirait que je déteste plus les gens qui trippent que le film lui-même.
Mais comment, en même temps, qui trippe sur Avatar? Vous savez, ça a été longtemps, justement, le film le plus rentable
du
cinéma. Puis... J'ai jamais vu tomber dans l'oubli.
Je pense que c'est genre dans box-office que les gars ont dit ça, mais tu sais, t'auras jamais de figurine d'Avatar ou de costume d'Halloween d'Avatar. Ça n'a pas marqué l'imaginaire et l'inconscient d'une génération tant que ça. Là.
Non, ça, c'est pas. Tu sais, au moins, quand Titanic était le film le plus populaire, ben, tu vois l'impact cinématographique que ce film-là a eu. Tu t'en rappelles. Ça s'appelle des scènes fortes.
J'ai rien contre Cameron. J'ai full aimé Titanic. Celui qui a fait le deuxième Terminator aussi.
Il a fait le 1 puis le 2. Il a fait le deuxième Alien. T'sais, c'est un super bon réalisateur.
Puis c'est un grand film, Avatar, aussi, dans la mesure où il repousse des moyens technologiques. Puis c'est un film qui... cette prémisse-là, cette histoire-là, ben, c'était parfait justement pour tester ces nouvelles technologies-là. T'sais, on est dans une nouvelle planète. On a des animaux. Toute cette histoire de connexion spirituelle avec la queue-là qui fait pas de crise de sens, ben au moins, à rapport avec la technologie, tu sais, c'est impressionnant visuellement à voir puis tout. Mais après ça, pourquoi builder un hype autour de cette histoire-là?
Ouais.
Tu sais, c'est basically Pocahontas, là.
Ouais, carrément.
Mais genre, juste un petit peu trop long, là, 2h42, là, c'est un peu de l'abus. Puis... Mais après ça, tu sais, c'est que là, j'en parle, puis j'ai l'impression de patiner parce que je le sais que, tu sais, comme je te dis, j'ai pas une thèse de doctorat sur pourquoi c'est pas un bon film. Tu sais, je l'ai même pas revu. Là. Je l'ai vu quand j'étais jeune, à 15 ans, puis je l'ai pas aimé. Puis j'ai juste pas voulu le revoir. À chaque fois que je l'entends parler, ça me fait chier. C'est irrationnel. Mais je suis écœuré de ce film-là. Là. Puis là, je sais qu'il y en a 3 autres qui arrivent, puis je me... peu plus de les détester. Là.
Mais c'est épouvantable parce que même à Disney World, en Floride, ils ont fait un parc thématique.
Ben oui, ben oui.
J'ai l'impression que ça doit être complètement vide à tous les jours parce que...
Aussi vide que le scénario, sûrement.
Ah oui, forcément.
C'est même pas rationnel, mais je pense que détester quelque chose, ça fait un peu abstraction de la rationalité à quelque part. Là. Je sais pas pourquoi. Là.
Ouais,
j'essaie de trouver d'autres affaires. T'sais, j'aime pas Le Seigneur des Anneaux ben dans vie. Je comprends que c'est un grand film, puis jamais j'aurais dit que c'est le film que je déteste.
Mm-hmm.
Parce que c'est un grand film. Mais là, Avatar, c'est que on dirait que même les acteurs se croient pas, que le scénario fait pas de sens, il y a plein d'incongruités, mais le monde en parle jamais parce que il est beau le film, puis faut
mais
sauver.
Ça a mal vieilli en plus, visuellement, ça a l'air d'une cinématique de PlayStation 3, là, avec du recul.
Ça se fait très bien. Ça a quand même 11 ans, mais
ouais.
Je suis quand même curieux, tu sais, les prochains qui sortent, est-ce qu'ils vont aussi innover que le premier a innové à son époque? T'sais? Est-ce qu'il va avoir un impact aussi grand ou bien, je sais pas, les gens vont se rendre compte que c'est un univers qui n'est pas intéressant. Là,
non, ça, puis entre-temps, ça a été vendu comme le grand retour de la 3D au cinéma. Vous avez pu avoir des lunettes de couleur pour regarder un film, vous allez pouvoir le voir dans... sa gloire, même si les lunettes, c'est un peu des lunettes de soleil, fait que ça enlève de la luminosité au film. C'était censé être le grand retour, puis là, on va vraiment expérimenter la 3D au cinéma. Entre-temps, la 3D, c'est mort, là. Il n'y a plus vraiment de film. Disney ne font plus vraiment de sorties 3D parce que les gens ne voulaient pas aller voir ça.
Non. Pour faire l'avocat du diable, j'ai quand même l'impression que la 3D du film est incroyable.
Oui.
De ce que je me rappelle, c'est pas mal l'expérience de 3D qui m'a plus jeté sur le cul, là. Peut-être parce que c'était une des premières que j'avais en cinéma. Mais... T'sais, après ça, c'est comme se faire pitcher plein d'étincelles, mais que t'as tellement d'étincelles d'en face que tu réalises pas qu'il n'y a pas vraiment de contenu. Là,
mm-hmm.
Pas mal ça. Je pense que c'est ça que j'aime pas du film, mais après ça. Super, après ça, venez me voir en privé et argumentez-moi, puis ça se peut que je flanche vite. Là. Ça se peut que je vous délire puis que j'ignore votre existence aussi. Là.
Ouais, puis à ce moment-là, ben, tu pourras aller regarder Hellraiser, qui est ton film.
Oh shit, le pont!
Clive Barker.
Ouais, je vais aller écouter Hellraiser.
Aussi fait Candyman, film de 87, c'est le gars avec des clous partout dans la tête. Là. C'est...
Le gars avec des clous.
Ouais. C'est un gars qui soupait son
c'est drôle parce qu'ils
sont trop intenses.
Tu sais, le gars avec des clous, je sais pas si t'as vu ce film-là.
Hellraiser, non, jamais.
Ok, ben le gars avec des clous, c'est Pinhead, mais tu sais, c'est un des personnages. C'est un des. Tu sais, grosso modo, là, puis je vais mal le raconter, là, mais tu sais, c'est une boîte un peu avec des propriétés magiques que quand tu la trouves, ben, tu vas invoquer, tu sais, une couple de démons qui vont juste venir te voir, te torturer psychologiquement pour que tu tombes dans la démence, tu sais.
Mm.
Puis Pinhead, ben, c'est un de ces démons-là, tu sais, il y en a plusieurs, là. Puis c'en est juste un, qui après ça, ils ont fait une franchise carrément sur lui, là, qui est tout à fait dégueulasse comme franchise. Mais tu sais, le premier est quand même vraiment fort. Puis pour vrai, c'est un film bonbon dans le sens, c'est un film d'horreur pur et dur. T'as des gros démons puis tout, mais la trame de base, c'est juste celle d'une petite famille dans une maison qu'il y a un monsieur dans le grenier qui est mort.
Okay.
Un monsieur plus de peau, genre qui en tout cas. Je le dis mal, puis je vais spoiler des affaires, mais tu sais...
Vas-y, on spoil. Dernière partie, on spoil.
De toute façon, ce film-là, il a été fait là, il y a 30 ans. Là, fait que c'était à vous de l'écouter. Non, mais c'est juste la petite fille à réaliser que je pense que c'est l'ancien mari de sa mère.
Mm-hmm.
Il est mort dans le grenier, mais il fait partie de la maison. Tu sais, t'as une scène où c'est 40 en haut, là, c'est incroyable. Elle monte dans le grenier, puis là, des lattes du plancher, il se met à avoir du mucus qui sort en stop motion dans une grosse toune orchestrale. Puis là, t'as le bonhomme qui se forme à partir du mucus qui sort des lattes du plancher. Puis c'est dégueulasse, mais c'est tellement hot. Puis là, c'est vraiment une grosse histoire entre, tu sais, l'horreur puis l'amour et la sexualité sont souvent un peu reliés. Mm-hmm. Dans ce film-là, c'est ça, c'est de l'érotisme à fond et de l'horreur à fond. Là. C'est la madame qui est encore un peu amoureuse de cet homme-là, l'espèce de présence sexuelle qui l'attire dans le grenier, mais qui est en fait un homme mort qui l'a... En tout cas, je veux pas en dire trop, là. Je pense que je vous tease un peu. Là. Mais tu sais, ce film-là, pour moi, c'est un grand film d'horreur, même si c'est complètement... Tu sais, c'est cheesy, là, des fois, là. Oh. Mais
t'aimes mais l'horreur en général, toi, tu sais, je veux dire, maintenant, on avait parlé aussi de toute la série des Friday... C'était-tu Friday the 13th? Oh,
Friday the 13th, certain.
J'ai
tripé... ces films-là. Le 5, c'est le meilleur. Le 4, il est solide. La mort de Jason dans le 4. le 3, c'est le premier masque de hockey. C'est le plus cool, mais pas le meilleur. En tout cas, on pourrait en parler des heures de ça.
c'est sûr.
Fais-moi un mix Robert Morin puis Jason.
Écoute, on va peut-être appeler Robert Morin pour qu'il fasse un Jason.
Ah, un slasher Jason. Morin, mon Dieu. Je suis prêt n'importe quand. N'importe quand.
Mais c'est ça. Ça serait du point de vue de Jason. Ça serait de voir comment sa vie a été pathétique du début à la fin. Puis que... Il ne voulait pas être un tueur, puis finalement, c'est la société autour de lui qui a été épouvantable.
Ouais, puis ça dénoncerait les camps de jour, les camps de vacances d'été qui traitent mal leurs enfants. Fait que là, on passe une journée avec un enfant maltraité, puis il joue au hockey.
Si, ouais.
Grosso modo.
Beau programme. Mais qu'est-ce que t'aimes du cinéma d'horreur? Parce que, puis là, je vois que c'est le cinéma d'horreur des années 80, mais t'as-tu...
Ouais.
Est-ce que ça s'étale aussi au cinéma des années 2000, les ça, les Paranormal?
Ouais, ben, c'est sûr que j'ai toujours aimé. Mais tu sais, je pense que ça vient d'une fascination encore au secondaire, quand tu découvres le cinéma, c'est la fascination morbide. Là. Au début, ouais. J'écoutais les Jason savoir comment qu'il allait tuer les bonhommes. Là, comme, hey, yes sir, avec Kevin Bacon dans le premier, comment qu'il tue, yes sir, il plante un harpon qui transperce le cou, c'est le fun, tu sais. Mais en tout cas, c'est le fun, hors contexte.
Oui, oui, mais, on comprend.
T'sais, mais il y a vraiment quelque chose d'un peu maniaque, là, mais souvent, ça va être, ce qui me fait vraiment triper, ça va être les films avec les practical effects, là, t'sais, donc les effets qui sont faits sur le plateau et non à l'ordinateur, tu sais. Ouais. Puis les Jason, c'est ça, là, t'sais, c'est vraiment comme une genre de d'intelligence ou de sagesse de comment aller refaire ça. T'sais. Puis Hellraiser, c'est pareil. Fait qu'il y a vraiment quelque chose dans l'horreur des années 80 qui est le fun pour ça. Là. Tu le sais que c'est du maquillage, tu le sais que c'est gros, mais le giallo, c'est pareil. Là. Tu le sais que c'est overburré.
Mm-hmm.
Mais mon Dieu, que c'est le fun de juste voir des humains rire de la mort dans un film.
Ouais.
C'est la peur qu'on a tous un peu. Ou... Même si on n'a pas peur, c'est quand même une finalité, la mort. Puis je trouve qu'il y a de la voir comme un jeu dans le contexte d'un film d'horreur, là, bien sûr. Là.
Mm-hmm.
Hier, mon coloc me faisait découvrir Harold et Maude que j'avais jamais écouté. Oui.
Super puis, beau film.
Ben, Colin, pour vrai, je n'avais jamais j'avais entendu parler, mais pour moi, c'était juste Harold et Maude. Tu sais, c'est les films avec des noms de personnages comme.
Ouais. Comme c'est comme moins évident. Ouais.
Mais Colin, c'est ça, la fascination de la mort, l'espèce de jeu, la célébration de la mort même.
Oui, puis pour faire une histoire courte, juste pour ceux qui n'ont pas vu Harold et Maude, c'est un jeune garçon qui met sa mort en mise en qui fait une mise en scène de sa mort comme s'il se suicidait à chaque fois, en sachant comment ne pas mourir. Mais tu sais, le premier plan, tu le vois pendu, puis sa mère, elle le regarde, puis comme bah, arrête là.
Hey, sa pauvre mère!
Non, mais blasé de le voir essayer de mourir, mais il essaie jamais vraiment de mourir.
Il est dans le bain, il s'est ouvert les veines, du sang partout, puis sa mère calisse.
Oui!
Ça n'a pas rapport. Non, c'est vraiment ça qui me fascine dans l'horreur, puis je pense que c'est ça qui fascine les gens en général. C'est oui d'avoir peur, mais c'est ça, c'est de se confronter à une émotion, tu sais, une mise en danger. Là, on est fait les humains pour survivre, tu sais, à la base, mais là, on ne survit plus, on est bien chez nous, puis on. Fait que, je sais pas, ça nous prend des films pour nous challenger un peu, pour nous faire rendre compte un peu là, qu'on peut être en danger. Je sais pas.
Ouais.
Quelque chose de le fun à ça, tu sais.
Mm-hmm. Mm. Parfait. Ben, écoute, c'est ce qui complète tes cinq films. Miguel, merci beaucoup.
Ben, Colin, ça fait tellement plaisir.
Si les gens veulent te suivre sur des plateformes, où est-ce qu'ils vont?
Écoute, sur Facebook, là, Miguel Deplante, tu vas me trouver. J'ai une page qui est Deplante où je mets mes vidéos. Je fais beaucoup de doublage humoristique puis des petits vidéos sur YouTube et tout. Mais Miguel Deplante, tu peux tout trouver.
Short and sweet. Excellent.
Short and sweet. That's it.
Complète le podcast. Alors, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et on a jasé de films et on se dit à la prochaine fois.
Bye bye!